Et vous, vous avez, entre Hélène et vous, et puis d'autres que nous avons entendus, vous avez quand même un franc-parler qui est assez rafraîchissant, je trouve.
Mais je pars avec la cassette.
Mais Hélène, c'est pareil, et les collègues, je pense, de ce matin aussi. On en parlait avec Pascal, qui est un peu votre homologue à la ville de Lyon. Hein. On se disait que c'est quand même rare de rencontrer des acteurs territoriaux qui ne sont pas en situation de vendre de manière corporate, comme on dit, leur politique publique. Donc, non, pour ça pas, je crois que pour nous, c'est très intéressant.
Il y a des temps où on est obligé de le faire, ouais. Celui-là, enfin, au moment où on se
parle. De toute façon, ça ne serait pas passé, je crois.
Ah bah bien sûr.
Alors, donc, on juste pour, on a un petit temps de discussion ou bien
oui, j'ai dépassé.
Oui, mais on va prendre un petit temps de discussion, de questions, si vous êtes d'accord. Hein. Non, non, il faut que vous alliez faire de l'intégration communale, intercommunale. Bon, j'avais des questions, mais Pascal, ouais. Alors, elle est spécialiste.
Non, du tout. deux questions. La première, je ne vois pas trop l'intérêt qu'il y a eu à transférer les postes des communes à l'intercommunalité. Si j'ai compris, ce sont les postes d'agence qu'on appelle les agents de développement. Bah, j'ai le projet que vous avez transféré. Dans la mesure où les compétences transférées au niveau intercommunal, enfin, c'est une partie des compétences, puisque les communes ont gardé quand même un champ de compétences très, très important. Et du coup, je ne vois pas trop l'intérêt qu'il y a dans la communauté lyonnaise, justement, le président du Grand Lyon l'a souhaité, le maire de Lyon l'a refusé, qui consiste à déconnecter les chefs de projet politique de la ville des compétences communales. Dans la mesure où, dès lors que l'agent est intercommunal, sa légitimité par rapport à la commune nous semblait, enfin, je vais dire moi, parce que c'était mon titre qui a fait qui était très opposé à ce système-là, déconnectait le chef de projet politique de la ville des compétences communales. Donc, du coup, je ne mesure pas bien, au regard de tous les enjeux de coopération que vous avez fort justement souligné et que nous partageons, quel est finalement l'intérêt d'avoir ainsi transféré les postes. La deuxième question, vous avez compris pourquoi vous avez aussi nettement dissocié la politique de la ville des dispositifs de type parcours de réussite éducative, CRSP2, parce que pour pouvoir la politique de la ville, enfin, c'est ce que j'appelle peut-être comme méchamment, mais les pièces jaunes,
les pièces jaunes.
J'appelle cohésion sociale.
Les pièces jaunes qui sont d'après, parce que dans les séminaires, c'est toujours ça. Mais c'est sans commune mesure, avec les moyens dont dispose n'importe quel autre service, la direction d'éducation, la direction de la petite enfance, la direction de sécurité, avec les 300 policiers municipaux. Donc, nous avons essayé effectivement sans, c'est pas les chefs de projet que nous avons privatisés, c'est plutôt de garder un maximum de postes et de manière pour illustrer le propos. La commune n'a pas de compétences officiellement en matière de développement économique. Pour autant, les développeurs économiques sont chez moi, parce que ça oblige le Grand Lyon, qui d'ailleurs a fait la politique de la ville pendant 20 ans sans en avoir la compétence, pour autant, à, dès lors qu'il veut agir un peu dans la proximité, d'être obligé de passer par les développeurs économiques qui sont chez moi et qui sont dans les équipes territoriales. Il y a une obligation de coopération qui passe par. Alors, dans l'organigramme, c'est complètement, c'était d'ailleurs de mon propos aussi, finalement, complètement incompréhensible, ça ne se voit pas. Mais c'est une négociation permanente, c'est dit permanent en français, qu'on arrive à faire prendre en compte les enjeux de cohésion sociale dans les politiques dites de droit commun, en matière de développement économique, en matière de. Alors, en matière d'habitat, ça c'est historique, c'est très ancien, mais en matière de prévention ou en matière d'éducation, car nous avons ainsi la possibilité d'organiser des espèces de couples qui sont assez proches de la répartition des compétences entre les communes et l'intercommunalité. La troisième question, du coup, c'est, je sais bien que la loi dit qu'il y a un transfert de compétences en matière d'intercommunalité. L'agglomération de Genève, on m'a inventé cette notion d'exercice articulé des compétences, puisque la loi pour la métropole de Lyon impose un schéma de cohérence métropolitaine. Donc la métropole doit produire ça, elle l'a fait. C'est-à-dire qu'elle doit expliquer comment elle pourra travailler les plus communes, et sur la base de documents, en fait, elle signe pour un cours de chaque nouvelle. Et donc en matière de politique de la ville, le choix qui a été fait, c'est justement de ne pas vraiment appliquer la loi, mais de s'inscrire dans cette logique d'exercice articulé des compétences, de manière à ce que ce soit en matière éducative, la commune est très bien concernée, en matière d'habitat, à l'inverse, c'est la communauté, mais qu'au final, quel que soit le domaine sur lequel on va travailler dans cette logique d'approche globale et de projet de territoire, finalement, l'un ne puisse jamais avancer sans l'autre. Il y a une espèce d'indivision, et c'est comme ça qu'on essayait de concevoir les choses. Alors du coup, je ne comprenais pas bien pourquoi vous, à l'inverse, aviez fait ce choix, ou en tout cas vous le présentiez comme tel, d'avoir séparé très nettement les dispositifs qu'on retrouve effectivement dans le texte, et puis l'ingénierie et spécifique politique de la ville.
Si vous me permettez, je fais juste une incise. Il y a quand même des différences de contexte considérables. Tu es responsable d'une politique dans une ville-centre qui a une importance extrêmement forte dans une intercommunalité qui a 50 ans d'existence, je pense. On est dans une situation totalement... Enfin, si je peux me permettre, une situation totalement différente ici. Il n'y a pas de ville-centre, enfin, au sens où... Bon, Montreuil, c'est la plus grosse commune, mais
elle n'est pas centrale.
Elle n'est pas centrale. C'est une intercommunalité qui a donc 9 ans. Et donc, qui est dans un système beaucoup plus confédéral que le système lyonnais. Donc, je ne veux pas anticiper sur votre réponse, mais le contexte explique aussi, me semble-t-il, ces logiques de négociation plus complexes et peut-être moins rationnelles par rapport à la lecture que tu peux en avoir vue de Lyon.
Justement, le transfert de poste ne me paraît pas dans ce contexte-là. Comment garder une commune, finalement, sur les enjeux de cohésion sociale, puisque la solidarité intercommunale, comment peut-elle se jouer dès lors que la commune n'a plus de maîtrise sur l'ingénierie de la politique de la ville, à moins qu'elle, par peut-être un jeu de cofinancement ou autre, de commandatement, mais voilà, c'est que je n'arrivais pas à mesurer.
Non, mais je... Alors, effectivement, M. Estève le constater, la comparaison n'est pas raison, et mon propos n'était certainement pas, j'ai dit un petit peu quelques jours au début de mon propos, j'ai rien à voir, c'est-à-dire que ce que je vous présente est le fruit d'un contexte local, d'une histoire, et que la transposition n'est forcément ni pertinente ni adéquate. Plusieurs éléments qui expliquent ça. Effectivement, on s'est concentré dans un premier temps, en tout cas, sur l'ingénierie. Ça nous paraissait, au moment où on a réfléchi sur les différents scénarios, exerce en lieu et place des communes membres, on s'est dit, et si on appliquait la loi ? Voilà. Non, mais c'était aussi bête que ça. Si le législateur a fait 3 lois en à peine un an pour à chaque fois préciser que vraiment, vraiment, c'est l'échelon territorial qui est mis en place, à chaque fois en durcissant sa rédaction, entendons-le, voilà. Ça participe, je crois, de la cohérence globale de notre République qui en a un peu besoin. Après, dans notre esprit, là encore, l'enjeu que vous soulignez de ne pas perdre le fil et le contact direct avec les compétences des villes, il est crucial, vous avez raison. C'est bien pour ça qu'il reste au sein des villes, c'est bien pour ça que j'ai souligné que, justement, il restait le territoire, le partenaire évident des services municipaux qui ont des projets, etc. C'est vrai aussi au niveau du renouvellement urbain, je suis peut-être passé un peu vite sur le fait que l'articulation était quartier, ville et territoire. L'objectif est aussi de faire de la péréquation, et ça c'est clairement à assumer politiquement, et de dire nous ne sommes pas l'addition de 9 villes qui ont pour des intérêts plus ou moins convergents. On a à mettre en place, et c'est un enjeu de 6 ans d'existence, de passer d'un héritage municipal avec des compétences à une compétence communautaire en termes de mise en œuvre de politiques publiques sur un échelon homogène, voilà. Quand on a transféré 3 maisons de l'emploi alors qu'on a 9 villes, et que qu'on voit concrètement que sur des maisons de l'emploi, l'accès à des maisons de l'emploi n'a rien à voir, quid de la question de l'égal accès des habitants à nos équipements, c'est un enjeu, et je pense que le fait d'avoir des agents territoriaux permet d'aborder sous cet angle-là les questions. C'est un engagement. Après, très clairement, l'État nous l'a demandé et les partenaires nous le demandent. Enfin, l'éducation nationale nous dit à un moment, c'est quand même plus simple de vous parler, la police nationale nous le dit, la CAF nous le dit, l'ARS nous le dit, il y a un petit côté, la région nous dit, mais moi je ne parle plus au niveau des villes, je ne parle qu'à vous. Bon, il ne parle plus beaucoup, mais quand même. Le conseil départemental nous le dit, je taquine ma VP. Donc, clairement, on a une assise, une crédibilité, et on obtient des rendez-vous plus vite quand on appelle au nom du territoire qu'au nom d'une ville membre. Et je pense que pour le coup, même les maires maintenant sont maintenant persuadés. Voilà, on a une visibilité accrue.
Mais la préfète, en étant à l'égalité des chances, continue de causer à chacune des communes. Quoi, si je vais
c'est normal, ça.
Oui, d'accord.
Heureusement. On ne lui demande pas du tout de plus faire. C'est pas du tout...
La plus-value, elle est vraiment, enfin, elle est évidente, hein, la plus-value de la gestion à l'échelle du territoire, on le sent bien avec les interlocuteurs. Après, au niveau de la gestion, c'est vrai que nous, on a un objectif, c'est une vraie vision politique de la chose, la politique de la ville. On espère, alors là, effectivement, on a mis en place l'approche thématique, donc là, il y a une vraie plus-value, c'est-à-dire que de plus avoir un chef de projet au sein des villes qui travaille en solo avec les porteurs de projets. Là, le fait de l'intégrer au sein du territoire, donc d'une part, il échange beaucoup plus avec les collègues des autres villes qui aujourd'hui sont au sein du territoire, et le fait de se concentrer sur une thématique, on voit bien qu'on a un vrai échange des pratiques, des moyens mis en œuvre au quotidien. Donc là, on sait concrètement, le territoire, c'est concrètement ce qui se passe en termes de politique de la ville au sein des 9 villes. Et ça, c'est très important. Pour nous, ça nous permet aussi de faire une communication avec des petits porteurs de projets d'autres villes et les orienter, communiquer, etc. Donc on est vraiment beaucoup plus efficace, en tout cas sur l'approche. Et après, voilà, à ça s'ajoute la question de la péréquation. Donc on aura une vision globale du territoire et ne peut être ancré sur la petite ville qui gère sa politique de la ville. Mais naturellement, on reste au plus proche des habitants. C'est-à-dire que le chef de projet, il a quand même sa ville et il connaît ses porteurs de projet.
Deux derniers arguments pour échanger avec mon collègue. Le premier, c'est que ça fait 20 ans, 30 ans que la politique de la ville est exercée au niveau municipal. On caresse l'espoir que ça disparaisse pas en 6 mois, 1 an, 2 ans. Par contre, tout reste à faire au niveau des compétences désormais transférées depuis seulement 4-5 ans au niveau des territoires. Et c'est quand même pas des compétences neutres. Je veux dire, l'aménagement, c'est territorial, l'habitat, c'est territorial, le renouvellement urbain, c'est territorial, les déchets, un petit dossier aussi, les déchets, surtout en QPV, c'est territorial. Donc, la mobilisation du droit commun, les crédits spécifiques, ça, c'est un chantier qu'on est en train d'ouvrir. Moi, je fais du porte-à-porte auprès de tous mes collègues directeurs sur les compétences que je viens de citer, il y en a d'autres. La culture, c'est territorial. Enfin, bon, voilà, c'est parti. Tout ça pour dire que, comme justement la culture n'existe pas, commençons à la construire tout de suite dès la naissance de cet ensemble. C'était aussi un argument. Enfin, je suis peut-être là aussi passé trop vite, mais la gouvernance des processus décisionnels continue, et c'est bien légitime, à associer les élus municipaux qui sont le premier niveau de validation avant transfert et consolidation au niveau de cet ensemble. Et là, on en est le garant. Voilà. Ça répond parfaitement à votre question, mais effectivement, c'est de logique différente.
Si on a encore un tout petit peu de temps, ben, que je prenne en tout cas, moi je me demandais, dans le champ de la cohésion sociale, au fond sur l'ensemble des communes, en consolidé, quel est le diagnostic que vous portez, sur, au fond, quels sont les enjeux de cohésion sociale, et du coup quelles sont vos orientations stratégiques à l'échelle intercommunale, qui fait que effectivement Il y a un discours politique intercommunal qui n'est pas simplement un discours managérial ou d'organisation, mais qui est aussi un discours stratégique. Donc, voilà, quels sont les points qui vous paraissent névralgiques sur lesquels il faut agir? Alors, je ne sais pas, hein, on a vu des discussions à droite à gauche en disant la question, par exemple, de l'accès des femmes au travail, l'accueil des enfants maternels, enfin bon. Donc, quels sont les points qui vous paraissent aujourd'hui centraux, les points d'appui ou les leviers qui vous paraissent centraux sur la question de la cohésion sociale ?
Les enjeux identifiés, on ne va pas réinventer la roue non plus, hein, ils sont souvent communs, hélas, à ces quartiers-là. En tout cas, on les a hiérarchisés parce que qui trop en bas, c'est pas les trains, donc on en a déjà... voilà, pour 2017, la priorité, c'est de mettre en place un volet éducatif renforcé. Je parlais, alors dans éducatif, on va réfléchir sur les contours de ce terme-là. Je mentionnais le retard évident en niveau de formation de nos habitants. Clairement, c'est un enjeu majeur sur lequel la région doit nous accompagner. Et c'est un de nos gros chantiers avec lesquels on rencontre l'éducation nationale lundi. Voilà, ce chantier-là, il est prioritaire parce que, comme je disais, faire cohabiter des bacs plus 5 qui ne viennent qu'aujourd'hui que travailler, qui repartent le lendemain et qui ont une approche pendulaire à nos quartiers et cohabitent sans vraiment se connaître ni se fréquenter avec les habitants, c'est un enjeu qui transcende un petit peu le simple intégration professionnelle et qui va vraiment au jeu de social. La question de la sécurité, clairement, elle est aussi importante. D'ailleurs, l'État n'est pas forcément extrêmement explicite là-dessus, puisque notamment un décret de financement là-dessus, c'est le FIPD, le Fonds interprétable de prévention de la délinquance, qui viennent de nous sortir de l'enveloppe cohésion sociale. Même si, évidemment, ils continuent à dire à nos côtés qu'il y a des vrais enjeux sur les questions de prévention et de sécurité. Après, le troisième axe le plus évident, je fais le lien avec la formation, c'est l'emploi. La situation de l'emploi aujourd'hui, elle est absolument... Je déjeunais avec certains d'entre vous qui me faisaient citer des chiffres qui font un peu peur sur le chômage des jeunes. On est à 40%, on est à un nombre, je n'ai plus le chiffre en tête, mais on a un chiffre absolument effrayant de jeunes qui sortent du système éducatif sans aucune formation. Enfin voilà, là il y a un enjeu sur lequel on va devoir travailler sur les décrocheurs, on va devoir travailler sur... pardon.
Puis on y travaille déjà avec l'organisation du PRE dans toutes les villes.
Voilà.
Certaines villes n'avaient pas de PRE.
Ouais, donc je suis capable de... je ne sais pas si j'ai répondu.
Non, non, tout à fait. Juste l'autre point que je voulais souligner, je sais pas, vous n'étiez pas là hier, mais un de nos collègues allemands a fait un exposé sur la politique, la cousine de la politique de la ville en Allemagne, qui s'appelle Sozialstadt, je suis arrivé à le prononcer. Et c'est très intéressant de comparer parce que, au fond, ce que vous décrivez, c'est une politique qui est à la fois très fortement déconcentrée, donc vous dites, bien, l'État n'est pas prescripteur, etc., mais qui en même temps est absolument tuyautée en une série de dispositifs qui sont déjà préformatés, préfléchés, dans lesquels vous devez vous inscrire d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que la marge de manœuvre territoriale est finalement assez faible en termes, je dirais, là encore, de contenu, d'orientation stratégique, etc. Et c'est totalement, enfin, l'impression qu'on a pu avoir, c'est que c'est totalement l'inverse en Allemagne, où on a une politique qui est beaucoup plus floue en termes d'objectifs, de construction, de machin, etc., qui repose beaucoup plus sur l'acceptation ou non d'un projet, sans avoir de critères vraiment a priori portés par les collectivités territoriales, ce qui permet des variations absolument incroyables d'un territoire à l'autre sur les objectifs, les stratégies, même la lecture sociologique de avec qui on travaille, etc. Et en fait, c'est quand même très très intéressant. En fait, c'est pas une question que je pose, c'est juste une réflexion que je me fais là sur la décentralisation à la française, qui est quand même extraordinairement téléguidée. Enfin, il y a un rapport très ambigu à l'État, quoi. Disons, à la fois, effectivement, vous dites. De temps en temps, patate chaude, c'est pas moi, c'est libre administration des collectivités territoriales.
Ils ont raison de le dire.
Ils ont tout à fait raison de le dire, mais en même temps, c'est hyper formaté. C'est-à-dire que vous avez les programmes qui sont fléchés, la prévention de la délinquance, la réussite éducative, la santé, je sais pas quoi, les mères célibataires, etc. Quoi. Et donc je trouve que c'est compliqué aujourd'hui de se dire, mais c'est quoi la marge de manœuvre réelle d'un territoire pour construire ses propres politiques, adaptées à son territoire. Et Bon, ça, parce qu'il faut ruser, quoi, en fait. Vous êtes obligé de ruser, quoi, en permanence. De faire croire que vous faites ça, mais que vous ne le faites pas vraiment.
C'est alors, après, l'exemple allemand, que je ne connais pas du tout, mais vous fait écho sans doute à leur approche fédéraliste.
Très décentralisée, bien sûr.
Clairement, en France, il y a sans doute une réflexion à mener sur une articulation, puisque c'est un peu le thème. Une articulation accrue et sans doute beaucoup plus fluide de l'État décentralisé et l'État déconcentré. Très clairement. Mais très clairement, qui ne peuvent avancer que si les jambes sont de la même taille.
On a du ministère de l'Intérieur ici. Deux représentants.
J'ai été sous-préfet chargé de la politique de la ville et de la population urbaine. Je partage tout à fait. La déconcentration aujourd'hui, elle est finalement plus ou moins remise en cause, en tout cas largement insuffisante. Mmh. Et pour que les partenaires locaux, collectivités et États puissent bien travailler ensemble, il faut effectivement qu'ils aient les mêmes armes. Mmh. Et aujourd'hui, nous sommes trop souvent, en tant qu'État local, finalement mis en difficulté par les institutions nationales, par les appels à projets nationaux qui découlent comme ça. Enfin, c'est malheureusement très, très contre.
Je, en forme de boutade, là, je disais, il nous disait, j'aimerais pas être à votre place, mais parfois, j'aimerais pas être à la leur. Non, mais honnêtement, je dis ça sans moi, j'ai eu une conversation avec une collègue de l'État qui me disait, alors je sais qu'il y a des gens du CGET, là, mais on fait des blagues. Enfin, c'est
le CGET. Là, c'est le phono.
Ouais, mais le CGET est-il une légende urbaine? Enfin, on fait des blagues au niveau, nous, les sous-titres tout en bout de scène, en bout de chaîne. Il y a clairement, on attend les consignes du CGET, le guide de l'évaluation. Autre légende urbaine, le guide de l'évaluation. Là, ils nous ont dit, ça y est, arrêtez d'attendre le guide de l'évaluation, ça fait 2 ans qu'on l'attend, nous aussi. Donc, je suis forcément un peu caricatural dans mon propos, j'en ai bien conscience, mais il ne serait pas inintéressant, effectivement, que l'État déconcentré au niveau, alors après, je ne sais pas quel est le niveau le plus pertinent, départemental ou autre, mais ait un peu plus de liberté de manœuvre et davantage une enveloppe globale, et que les tuyaux s'arrêtent à leur niveau. Ouais. Alors après, ils additionnent les tuyaux, ils ont une enveloppe. Et d'ailleurs, le discours de Madame la préfète tente d'arriver à cela. Quand je dis qu'il y a une logique de projet, qu'elle dit... parce que nous aussi, on a complètement incorporé les tuyaux, donc on arrive, on dit alors, le Bob 104, alors... Enfin, on est complètement... on est dressé, quoi. Hein, donc, et là, c'est intéressant. Alors ça nous réinterroge aussi, ça nous fout, mais elle nous dit, bon... Et oh, les technos, on se calme, et elle essaye un petit peu de nous... Mais c'est pas inintéressant. Voilà, en tout cas, c'est oui. Et je trouve que les collègues de la préfecture sont parfois pas assez nombreux, pas assez... préfecture, on a l'impression qu'il y a des têtes extrêmement bien faites, bien... Mais que les petites mains manquent, voilà. Pardon ?
Oui, c'est
bon. Non, mais c'est moi aussi, la petite main. Hein. C'est pas un gros mot, petite main, au contraire. Hein.
Les ajusteurs.
Oui, ceux qui ont la main dans le fameux capot, quoi.
Bien. D'autres. On a explosé l'horaire là. D'autres interventions?
Je voudrais savoir comment les citoyens s'y retrouvaient.
Juste, vous pouvez reprendre vos bonnes habitudes de vous situer quand vous intervenez.
Désolé, je suis journaliste.
Vous êtes, pardon?
Journaliste.
Parce que moi, je vais y aller. Non, parce que la caméra plus un journaliste, c'est trop. Même l'euro, faut qu'on parle.
Comment s'y retrouvent les citoyens? Parce qu'en fait, moi quand j'entends cohésion sociale, j'entends social, j'entends département. Donc, il y a un peu à cette territoire.
Les citoyens ne font pas grand-chose. Non, mais la lisibilité de nos politiques publiques, de nos organisations, enfin, si on récapitule aujourd'hui l'organisation métropole, alors on part, ça y est, c'est parti, sur un même territoire, on est membre d'une ville, d'une interco, d'un département, de la métropole du Grand Paris. De la région, avec des financements croisés, des compétences croisées, c'est illisible. À cela s'ajoute une organisation différente pour chaque... Enfin,
d'organisation territoriale différente. Vous mentionnez, monsieur, l'éducation nationale n'a même pas le territoire de mise en œuvre que la CAF. La CAF ne travaille pas de la même façon que l'ARS. Enfin, c'est ubuesque. Enfin, j'ai honte. Enfin, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer ça aux citoyens. Je m'y suis appelé une fois ou deux. Je me suis pris des baffes et ils avaient raison.
Alexandre, tiens-toi bien.
Je ne peux pas. J'avais tout, je suis au courant. Donc, je peux être coupable là, enfin, très vite. Enfin, je suis dans l'impossibilité de porter un discours un peu structuré sur la cohérence et de nos politiques publiques et de notre organisation institutionnelle.
Le miracle, c'est qu'il se passe quelque chose plutôt que rien, en réalité. Au bout du compte, c'est quand même ça le miracle de cette organisation qui est liée aux personnes. Excuse-moi, c'est un peu démagogue de dire ça, mais quand même. On le sait très bien, quelle que soit l'organisation, même dans les entreprises les mieux organisées, si les employés, les ouvriers ne trichent pas avec l'organisation et les règlements, jamais une voiture ne sortirait, pour reprendre la métaphore mécanique, des usines Renault et encore moins Volkswagen.
Et encore moins PSA Aulnay nous concernant en ce moment.
Un
tricotage, un détricotage, un retricotage de la politique de la ville depuis 40 ans, moi c'est ce que j'entends depuis hier, et qu'après, au niveau résultat matériellement, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une grosse inertie. Au niveau des résultats,
vous verrez le
sans
guide de l'évaluation va tomber.
C'est nerveux.
C'est les meilleurs.
D'autres.
Oui.
Alors, tu te présentes.
Gaëlle Bonnefond, direction régionale de l'équipement et d'aménagement de France. Je vais poser une question qui n'a rien à voir avec la mairie là. Par exemple, sur le volet éducatif, est-ce que ce serait pas intéressant de pousser le droit à l'expérimentation? Parce que tu disais finalement ça marche en trichant un peu. Moi, j'ai l'impression que on est plutôt bons élèves, hein, parce que effectivement, vous citez les RE. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'autres marges de manœuvre que les PRE. Et finalement, si on poussait l'expérimentation sur d'autres méthodes scolaires, par exemple, il y a des enseignants qui aujourd'hui trichent complètement avec le système et mettent en place des méthodes dès la maternelle, et ça marche extrêmement bien. Quelles sont vos marges de manœuvre par rapport à ça? Est-ce que vous pourriez avoir une réflexion stratégique avec les 5 millions d'euros qu'on nous donne par an, dans le budget, si on voulait un peu pousser à fond la réflexion sur une politique efficace en matière d'éducation dans des territoires comme ça, c'est un enjeu majeur, est-ce que vous pourriez tricher?
C'est-à-dire innover, en fait.
Voilà, oui. Sortir du PRE et se dire, on va donner notre évaluation.
Je crois qu'on a bien sous préfet de répondre à ma place. Alors, le droit à l'expérimentation, c'est un peu un serpent de mer. Les anglo-saxons, je crois l'expression, c'est les sunset laws. C'est-à-dire ils créent une loi, puis au bout de 2-3 ans, ils regardent si ça marche, et puis ils laissent tomber, ils en font une autre. Enfin, il y a un côté, ils sont beaucoup plus proactifs et pragmatiques, sans doute, que nous, à ce niveau-là. On essaye l'expérimentation. Il y a certains freins constatés. Alors sur l'éducation, ce n'est pas forcément le meilleur exemple, parce que mettre éducation nationale et expérimentation, très vite, ça relève un peu de l'oxymore, vous voyez. C'est pas là aussi, hein, c'est un gros bateau, j'ai pas dit mammouth. Enfin, il y a des choses qui sont difficiles à changer. Maintenant, sur ces 5 millions, il y a un autre débat sur lequel on réfléchit beaucoup. Et il y a quelques temps, on n'avait même pas l'outil, le thermomètre pour savoir, c'était quel était le taux de renouvellement de nos subventions. C'est-à-dire, quel est le pourcentage sur ces 5 millions qui, tous les ans, sont redonnés à peu près pour la même action, à peu près à la même assoce. Alors, peut-être pour des bonnes raisons, ça marche, mais ça renvoie à la question de l'évaluation, j'arrête. Mais clairement, il faut se servir de cet argent pour essayer des trucs, oui. Oui, et on ne le fait pas assez. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a identifié. Moi, j'ai essayé d'appeler un truc, mais c'est une expression qui n'a plus cours, parce que ça veut dire enveloppe qu'on peut raboter, c'est, j'appelais ça une enveloppe souple, une expression que certains d'entre vous doivent connaître, à savoir le petit pourcentage du budget qui est ligne par ligne déjà fléché en début d'année, et puis dans une petite enveloppe souple pour être réactif, pour accompagner un projet. Mais l'enveloppe souple aujourd'hui, en ces temps de disette, c'est l'enveloppe qu'on rabote. Donc il ne faut surtout pas l'appeler comme ça, donc il faut tricher. Il faut mettre un nom d'action derrière, même si on ne sait pas. Mais quand on a construction budgétaire, si, moi j'ai essayé, hein, j'ai mis enveloppe souple, en plaidant le fait que si nous on mettait un euro, on avait un effet levier de 3-4 euros ailleurs, mais qu'il fallait commencer à mettre un euro, et ça n'a pas marché, je me suis fait... Non, enveloppe souple, monsieur, voyons. Ce n'est plus d'actualité. Donc, je ne suis pas sûr de vous donner beaucoup d'espoir, mais en tout cas, oui, sur ces 5 millions, dont 4 millions d'autres de l'État, donc là, oui... La répartition de l'enveloppe cohésion sociale, c'est de tête, on est, nous, Est Ensemble, on est à 800 000 avec les 4 millions de l'État. Hein. Donc là aussi, on est dans du partenariat. Et honnêtement, je trouve que les politiques publiques dépendent toujours des gens qui la font. Très clairement, je prenais l'exemple de deux PDEC qui ont eu deux approches diamétralement différentes. Et ça a été jour-nuit. C'est-à-dire qu'en septembre, on avait une commande. Et en janvier, la nouvelle arrivée nous disait, mais pause, voire reset.
Tout le monde a compris ce que c'était comme PDEC.
Oui.
Préfet délégué à l'égalité des chances.
La personne qui a rang préfet, qui, dans certains, je ne sais pas combien il y en a en France, une dizaine, je crois, voilà, enfin, c'est un peu comme, c'est l'homologue, parce que souvent ils sont dans les mêmes départements, du préfet de police. De police, il n'y en a pas partout non plus, il y en a à Lille, à Marseille, voilà, souvent parce que les problématiques de... c'est souvent un peu les mêmes départements qui se retrouvent avec un préfet qui chapeaute deux, qui vont rejoindre le préfet de police et le préfet délégué à l'égalité des chances, et après des sous-préfets d'arrondissement, en général en charge de la politique de la ville, ce qui est caché. Je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à votre question.
Merci de l'avoir posé.